quoi est-ce que le progrès technique peut être positif pour la société et en quoi est-ce qu'il peut améliorer votre vie?
Je pense que ça facilite beaucoup de choses au quotidien.
Ça permet d'avoir accès à des choses auxquelles on n'avait pas accès avant. Ça permet d'améliorer le quotidien.
Le fait même de pouvoir accéder à son mail ou à ses SMS, je trouve que c'est génial, quoi. Quel que soit l'endroit où on se trouve, tant qu'il y a du réseau, on peut être connecté à nos clients, prospects ou notre famille.
C'est l'avenir, quoi, la technologie.
Est-ce qu'il y a des nouvelles technologies dont vous ne pouvez pas vous passer au quotidien?
Ah ouais, bon, le portable.
Téléphone, ordinateur.
Alors je pourrais me passer de tout. Je ne le cache pas. Peut-être du téléphone.
Depuis quelques années, qu'est-ce qui a changé selon vous dans le monde du travail en mieux ou en moins bien?
Mais il n'y a rien de mieux. Il y a une paupérisation qui va avec, comment ça s'appelle, qui va avec une insécurité du travail.
Beaucoup plus de petits boulots. Les gens cumulent de plus en plus de petits jobs, sont auto-entrepreneurs.
Le travailleur est beaucoup moins bien protégé.
Un meilleur équilibre de la vie professionnelle et de la vie privée.
Qu'est-ce que les nouvelles technologies ont changé au monde du travail?
Tout. La rapidité. La rapidité de contact, de réponse aux questions. La facilité, le fait de pouvoir contacter plein de gens à la fois. Et en même temps, trop. Parce que du coup, on est submergé de mails. Mais on gagne un temps fou sur plein de choses.
Je trouve que ça, c'est positif niveau informatique. Ça a ouvert beaucoup de postes pour les créations de logiciels, aussi au niveau du e-commerce aussi.
On peut bosser avec des gens à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la France.
Qu'est-ce qui est positif dans la mondialisation pour l'économie française et qu'est-ce qui est négatif?
Pas grand-chose de positif. On veut nous faire croire que les prix sont moins élevés. Des marchandises, ce qui est vrai certainement, puisqu'il y a moins de droits de douane, etc. Mais ça laisse sur le carreau des milliers et des millions de personnes.
Ce qui n'est pas bon, c'est la concurrence de la main-d'œuvre pas chère.
Ce qui est négatif dans la mondialisation, c'est le développement des multinationales qui deviennent un pouvoir dont on mesure mal l'importance.
Ce qui est positif, je trouve, c'est plus d'échanges, que les jeunes partent plus à l'étranger.
Ce qui est positif, c'est que ça va obliger la France à bouger.
Qu'est-ce que vous pensez du Brexit et de ses conséquences?
C'est peut-être bien.
Je pense que ça peut être un atout pour la France, pour tout ce qui est entreprise et banque pour venir en France.
C'est dommage parce que ça pourrait... Je pense qu'il y avait des échanges quand même qui étaient pas mal entre l'Angleterre et la France.
Je pense que c'est une mauvaise chose pour l'Union européenne. J'ai du mal à croire que le Royaume-Uni s'y retrouvera.
Je trouve ça catastrophique, complètement stupide.
Je n'imagine rien, parce que déjà l'euro c'était une fumisterie.
Les Anglais, de toute façon, ils n'ont jamais voulu notre monnaie.
Chacun règle ses problèmes dans son propre pays, donc pour moi il n'y a pas de conséquences véritables.
Faut-il plus ou moins d'Europe et pourquoi?
Il faut plus d'Europe. Pourquoi? Parce que je pense que c'est notre salut. Déjà, ça nous a permis d'éviter les guerres depuis 50 ans maintenant. Ça permet, j'en suis sûr, une meilleure intégration économique. Enfin, on peut le voir avec la Pologne aujourd'hui.
Je pense que l'Europe déjà a pris un peu trop d'ampleur. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à une union réelle à cause de la multiplicité des États qui en font partie.
Peut-être qu'il faut revenir à un certain protectionnisme aussi pour éviter de la mise en concurrence de certains secteurs, de certaines entreprises.
Pour vous, c'est quoi le sujet principal aujourd'hui qu'il faut résoudre, un problème principal pour préparer l'avenir?
C'est le chômage.
Je pense que c'est l'emploi, les entreprises, relancer les entreprises.
Je trouve que le principal problème, c'est qu'il faut laisser la place aux jeunes.
La migration.
S'il y a un chantier par lequel il faudrait commencer, c'est l'éducation et je pense que tous nos autres problèmes en découlent.
L'éducation et le système éducatif surtout, parce que en fait j'ai ce sentiment qu'on nous forge à être ce qu'on n'est pas et que du coup la prise de conscience de l'individu n'existe pas avec le système actuel.
Relation de travail, je dirais, relation de travail et bien-être peut-être.
Bonjour à tous et à toutes, je suis heureux de vous accueillir pour cette 9e édition des Journées de l'économie. Vous avez vu en arrivant ce matin qu'on fait le grand marché qui est ouvert sur la place juste devant la bourse du travail. Eh bien, vous allez pouvoir faire vos emplettes pendant 3 jours. Vous allez pouvoir passer par tous les stands de l'économie et j'espère que vous repartirez avec des provisions pour 1 an, en tout cas sur la réflexion. Je crois que vous allez avoir une matière abondante et assez passionnante cette année. Avec un grand thème, vous avez vu, économie, la grande mise à jour. Je crois que tous nous sommes confrontés à des changements que nous comprenons plus ou moins. Nous allons essayer ensemble d'y réfléchir et au moins d'apporter un certain nombre d'éclairages qui pourront nous être utiles à chacun. On doit aller très très vite, vous voyez que nous sommes nombreux sur cette table à intervenir. On va réagir d'abord à ce micro-trottoir que vous venez d'entendre. Je tenais beaucoup à ce qu'on ait ces réactions à des sujets économiques pour qu'on puisse avoir ces éclairages. Vous avez vu en terminant qu'on nous a dit que l'emploi, l'éducation étaient des grandes questions importantes. Il me semble que quand on regarde ces sujets fondamentaux, ça interroge immédiatement les politiques. Et évidemment, je suis tenté d'interroger Gérard Collomb, maire de Lyon, sur ce sujet. Quand on regarde ces sujets fondamentaux, est-ce que les politiques peuvent en fait apporter des réponses en moins de 2 minutes ? 3 minutes peut-être.
Mais je crois que ceux que vous avez interrogés ont raison, effectivement, de penser que l'éducation, c'est quelque chose de premier. Vous voyez, moi, je suis, de ce point de vue-là, issu de couches populaires. Mon père était ouvrier métallurgiste, ma mère, femme de ménage. Et donc, je ne suis pas sûr que si j'avais eu à l'époque l'école d'aujourd'hui, je serais devenu ce que je suis aujourd'hui. Parce que je pense qu'on a négligé à l'école les apprentissages fondamentaux. Lorsqu'on regarde finalement les classements à l'échelle internationale, on s'aperçoit que notre école primaire n'est pas performante, que les élèves ne sortent pas avec des connaissances de base, que de ce fait, au collège, les distorsions s'accroissent. Et c'est l'ensemble de notre système éducatif qu'il faut revoir. À mon avis, c'est une des principales priorités. Faire en sorte que les gens qui n'ont pas la chance d'avoir une famille qui peut leur inculquer une certaine culture puissent trouver à l'école des connaissances qui peuvent les faire progresser dans la vie. Après, il y a tous les problèmes qui peuvent exister dans la relation entre l'école et l'entreprise, faire en sorte qu'il y ait davantage de liens. Nous, comme vous le savez, avec la construction de la métropole, on vient d'hériter des collèges et donc on cherche, on va essayer de le faire avec les entrepreneurs, à faire en sorte qu'il y ait davantage de liens et qu'en particulier sur les problèmes de stage, on puisse avoir finalement de la fluidité qu'on n'a pas aujourd'hui. Voilà, je crois que de ce point de vue-là, tout est à revoir. L'école primaire ne marche pas. Notre école supérieure est aussi à revoir parce qu'on est trop dans des enseignements qui sont généralistes avec, on le sait, au bout de la première ou de la deuxième année, un tiers ou des gens qui sont en échec et qui finalement abandonnent les études. Donc les tests PISA qu'on fait aujourd'hui montrent qu'on recule dans les classements. Sur l'enseignement des langues, j'entendais avant-hier qu'on était au niveau de la Colombie, de l'Équateur, pardon. Donc voilà, je pense que si effectivement dans une économie qui est celle de la connaissance, nous sommes nuls du point de vue de l'école, du point de vue de la formation, du point de vue de l'enseignement supérieur, alors évidemment, nous partons avec un handicap fondamental.
Et pour moi, c'est évidemment des paroles qui m'intéressent beaucoup. Cette pédagogie, enfin, qui pourrait être ouverte à tous, et on pourrait faire beaucoup mieux. Peut-être maintenant interroger le grand témoin, Louis Gallois. Hein, Louis Gallois qui est le président du conseil de surveillance de PSA, qui est le coprésident de la Fabrique de l'Industrie, qui est le président de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion, hein, FNARS, et président aussi de l'association Expérimentation Territoire contre le chômage de longue durée. Je pense que toutes ces fonctions ont un sens, ça m'intéresse beaucoup. Ce grand témoin est une personnalité qui peut créer de la confiance. C'est pour ça que j'insiste sur ce sujet. Et évidemment, je suis tenté de poser des questions sur l'Europe à Louis Gallois, parce que vous avez vu qu'en fait, dans le micro-trottoir, on nous parle de l'Europe, du Brexit, mais on a l'impression d'une mosaïque de positions. Est-ce que c'est le signe que les citoyens aujourd'hui savent plus très bien ce qu'on peut attendre de l'Europe ?
Bonjour d'abord à tous et à toutes. Je pense effectivement qu'il y a une interrogation fondamentale dans l'opinion publique sur l'Europe. Lorsque vous interrogez les gens, ils se disent tous plus ou moins en faveur de l'Europe. Mais on constate que il y a des doutes très profonds. La politique migratoire pose des problèmes à un certain nombre de pays, la Hongrie, parmi d'autres. La politique économique pose des problèmes à un certain nombre de pays du Sud, la Grèce, le Portugal, l'Espagne. On constate qu'on a énormément de difficultés à constituer une Europe de la défense entre des pays qui assument un certain effort de défense et des pays qui refusent d'assumer cet effort de défense, considérant que le parapluie américain est largement suffisant. Ceci, ça ne touche pas directement les citoyens, mais ils ont une impression de confusion et du fait que l'Europe, d'une certaine manière, s'effiloche. Et je pense qu'il faut que nous entendions cela. Et j'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet, puisque je participe à une table ronde sur l'Europe cet après-midi avec François Villeroy de Gallo. Je pense qu'il va falloir redonner un sens à l'Europe. Il y a un débat, alors les solutions, on dit plus d'intégration, moins d'intégration, Europe à géométrie variable, Europe des cercles concentriques, etc. Je pense que tout ça, c'est en aval. En amont, quel est le sens de la construction européenne ? Ça ne peut plus être la paix, parce que ça a été le vecteur de l'Europe au départ. La paix dans une Europe qui s'était déchirée pendant deux guerres mondiales successives, à 20 ans d'intervalle. On ne se rend pas compte, mais les deux guerres mondiales se sont succédées à 20 ans d'intervalle. Revenons... il y a 20 ans, c'était 1996. Hein, c'est quand même quelque chose de frappant. Donc il y avait cette nécessité de l'Europe. Il n'y a plus de doute sur la paix en Europe. Donc il faut trouver, il faut redonner un sens à l'Europe. Et je reviendrai sur ce sujet.
Merci. Bernard Bigot, président de la Fondation pour l'Université de Lyon, je voulais vous demander, quand on entend les Français là, qui sont interrogés, ils ont une vision quand même du progrès technique qui est très tournée, me semble-t-il, vers le smartphone, vers en fait des utilisations un peu de vie quotidienne. Est-ce que les grands enjeux du progrès technique se réduisent à cette dimension ? Est-ce que vous, pour vous, il y a sur les 20 ans à venir d'autres dimensions qu'il faudrait regarder de près ?
Oui, effectivement, le plus évident, c'est cette extraordinaire révolution de l'échange de communication, quand on pense que dans le monde, il y a instantanément des centaines de millions d'échanges qui se font sans confusion, ça marque les esprits. Mais le progrès scientifique est beaucoup plus que cela. Je pense que, je prends un exemple très concret à la fois qui me touche, puisque je suis aussi le responsable d'un grand projet de coopération internationale dans le domaine de l'énergie. Nous avons besoin de trouver des alternatives aujourd'hui aux modes de production d'énergie qui ont fondé le développement de nos sociétés. Beaucoup de gens oublient que l'énergie a été le facteur clé du développement économique et social du monde. Dans les années 1800, l'espérance de vie était de 35 ans, donc, et c'était simplement la force humaine et la force animale qui vous permettaient effectivement de amplifier vos capacités. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous avons une consommation d'énergie qui est l'équivalent à l'usage de 450 personnes qui travailleraient 24 heures sur 24 en permanence. Donc cette problématique de l'énergie, à mon avis, est essentielle. J'ai un autre exemple à l'esprit, donc, qui est celui des sciences analytiques. Le progrès qui a été celui des sciences analytiques était extraordinaire. Aujourd'hui, on détecte des nanoconcentrations qui permettent, dans le domaine, par exemple, de la sécurité alimentaire, dans le domaine de la qualité de l'air, dans le domaine des examens biologiques à finalité sanitaire, des ouvertures, des potentialités extraordinaires. Donc, de mon point de vue, ne réduisons pas le progrès scientifique à quelques éléments. Il faut que l'on ait une vision beaucoup plus large. Et honnêtement, je trouve que ce qui se fait est absolument passionnant et mérite l'attention de tout et un chacun.
Une vision peut-être un peu moins positive. Je pensais poser cette question à Jean-Louis Guyader, qui est donc le vice-président de la commission enseignement supérieur et recherche à la région. Autant le progrès technique semble enthousiasmer, autant la mondialisation, comme d'habitude, laisse beaucoup plus sceptiques les personnes interrogées. Hein. Elle est vue comme un facteur de dumping social, et même si on connaît qu'il peut y avoir quelques opportunités, elle semble toujours être perçue comme un danger. À votre avis, est-ce qu'on pourrait mieux l'orienter? Est-ce que c'est un véritable enjeu pour des territoires, comme la grande région, Auvergne-Rhône-Alpes?
Alors, je crois qu'effectivement, la mondialisation est vue par ces deux aspects que vous venez de souligner, le dumping social qu'on ne peut pas nier, mais aussi des opportunités qu'il faut saisir. Et je crois que la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais de façon générale la France, doit se positionner et faire un choix clair. Je prendrai un exemple, puisqu'on est dans les Alpes. Si vous voulez apprendre à skier, vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez aller sur une piste verte, quasiment plate, et puis en fait, vous dupliquez la marche pour essayer de glisser un peu. Vous n'apprendrez jamais à skier comme ça. Pour skier, il faut aller sur une bleue, et mieux une rouge, et y aller vraiment, parce que là, ça va déclencher des mécanismes différents et vous allez vraiment savoir ce qui est. La mondialisation, pour moi, aujourd'hui, c'est ça. La France doit choisir la piste rouge ou la piste verte. Aujourd'hui, on est dans la piste verte, c'est sûr. Mais la mondialisation réussie, c'est évidemment bouger. C'est évidemment des métiers qui sont trop concurrencés par le monde, s'adapter. La France en a les moyens. On parlait de l'enseignement supérieur, c'est un pays extraordinaire de ce point de vue, la France. Alors, il faut avoir le courage et il faut faire des vrais choix. Par exemple, si on ne choisit pas d'avoir une industrie qui se concentre sur ce que les autres, à plus faible valeur de main-d'œuvre, savent faire, on ne s'en sortira pas. Donc évidemment, je pense que vous allez parler beaucoup d'innovation et c'est un point clé. Mais il y a aussi des choix stratégiques. Par exemple, si on prend l'automobile, si on veut faire des automobiles de moyenne gamme, on va avoir de plus en plus de mal. Il faut impérativement qu'on fasse des produits qui s'adaptent à notre niveau de vie. Donc le premier point, c'est ça, c'est des choix stratégiques sur ce que notre industrie, notre pays veut construire. La deuxième chose, c'est que ça va être un moment douloureux. Parce qu'il y aura des destructions d'emplois et des créations d'emplois. Et aujourd'hui, vous voyez, on entend beaucoup parler de déstructuration, de libéralisation. Je pense que ce n'est pas le moment de faire ça. Je pense qu'aujourd'hui, il faut de la solidarité parce qu'il va y avoir des Français qui vont rester sur le tapis pendant un moment. Et c'est là qu'il faut les aider. Donc, la mondialisation, évidemment, on peut mettre des frontières un peu partout. Je pense que ce n'est pas la bonne solution. Et je crois qu'il faut faire une mondialisation positive. Il faut qu'enfin, on le voit comme une chance. Et pour la voir comme une chance, il y a un certain nombre de choix que notre pays doit faire impérativement.
Merci. L'image de la piste rouge me convient très bien, parce qu'empruntons tous la piste rouge, c'est peut-être pas si simple que ça. Et je pensais que c'était une question qui se posait pour Emmanuel Imberton, le président de la CCI de Lyon. Est-ce que nos entreprises en Rhône-Alpes sont prêtes à emprunter la piste rouge? C'est-à-dire, est-ce qu'on est en situation, selon vous, pour ces entreprises, de faire cette grande mise à jour des entreprises, hein, comme on parle aujourd'hui de la grande mise à jour en économie?
Effectivement, la mise à jour, elle s'applique à l'ensemble de nos entreprises, avec une accélération absolument incroyable depuis une dizaine d'années. Le fil rouge aujourd'hui de la mise à jour, c'est la transition numérique qui est en train de révolutionner le quotidien de nos salariés, mais également de nos entreprises en ouvrant encore un peu plus le monde, la mondialisation est à nos portes, et en accélérant les processus d'une façon tout à fait incroyable. Cette accélération, elle est récente, elle est due notamment à l'arrivée de l'Internet et de toutes les technologies qui y sont associées et qui font qu'aujourd'hui, ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui dans la vie de toutes nos entreprises. Et d'ailleurs, nous avons entrepris auprès de nos ressortissants une action très forte, notamment pour les PME et les commerçants, parce qu'on parle souvent de la French Tech, de ces entreprises qui baignent effectivement toute la journée dans les nouvelles technologies. Et on oublie l'immense majorité des TPE, avec des dirigeants qui ont maintenant, qui sont tous des quadras et qui ne manient pas ces nouvelles technologies aussi bien que les nouvelles générations. Et beaucoup de ces chefs d'entreprise ont pu penser qu'ils allaient passer à côté des gouttes de la transition numérique. Or, on constate aujourd'hui, et encore une fois, le phénomène s'accélère, que la transition numérique, c'est transversal et horizontal dans l'entreprise. C'est-à-dire que ça concerne à la fois nos fournisseurs, ça concerne également nos clients, mais ça concerne également tous les services de l'entreprise. Alors, est-ce que dans cette transition numérique qui est en train de bouleverser nos entreprises, notre région et notre métropole sont bien équipées? Moi, je pense que oui, parce que les ingrédients qui vont faire la richesse de notre métropole sont au rendez-vous. Il faut d'abord avoir une université qui soit à la hauteur de nos ambitions et des écoles qui nous permettent de trouver les salariés qui vont nous emmener dans cette nouvelle destination. Et ici en France, c'est le cas, mais encore plus dans la région Rhône-Alpes ou à Lyon, où on a cette matière grise indispensable pour le développement de notre entreprise. Il faut ensuite permettre aux entrepreneurs d'être dans les meilleures conditions possibles pour leur permettre d'aller conquérir le monde. Il faut donc qu'ils aient un écosystème qui les accompagne, qui soit performant. Et ici à Lyon et dans la région Rhône-Alpes, mais spécialement dans notre métropole, toutes les parties prenantes, que ce soit les politiques, que ce soit les consulaires ou bien encore les organisations professionnelles, on travaille tous ensemble. Je pense par exemple à Lyon-Ville de l'entrepreneuriat. Lyon-Ville de l'entrepreneuriat, c'est un système, une association qui permet d'accueillir tous les entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'aventure. Nous recevons près de 17 000 entrepreneurs chaque année grâce à la conjonction de toutes les forces ici à Lyon. Et donc on met les entreprises dans les meilleures conditions pour qu'elles puissent réussir leur mondialisation.
Merci. Être dans les meilleures conditions quand on est sur une piste rouge, vous savez, c'est un léger sentiment d'insécurité quand même pour certains. Et je pensais peut-être que Jérôme Ballet pourrait nous dire quelques mots, il est membre du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, de ce sentiment d'insécurité, les petits jobs, les tensions entre vie professionnelle et vie privée qui ressortent immédiatement quand on fait un micro-trottoir comme celui que vous venez de voir. Il y a des mutations profondes dans le monde du travail et peut-être que la piste rouge là est beaucoup moins confortable. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oula, vaste sujet là, hein. Vu le temps imparti, je vais me focaliser peut-être sur l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, comme le disait la dame dans le micro-trottoir, hein. D'autant plus que quand on interroge les salariés, c'est ce qui revient en premier dans les critères d'insatisfaction, hein, c'est effectivement comment concilier ces deux mondes. Et deuxièmement, moi je me rends compte quand je rencontre des jeunes, hein, des générations Y, hein, c'est un sujet qui n'est absolument plus tabou aujourd'hui, hein, qui est évoqué largement, hein, et puis les salariés sont assez critiques en disant « mais qu'est-ce que font les entreprises pour m'aider effectivement pour concilier ces deux mondes ?» Alors je ne vais pas être très novateur dans les différentes pistes très rapidement, hein. Le premier sujet qui vient, c'est l'assouplissement des horaires de travail, c'est avoir un peu de souplesse. Typiquement, j'ai un imprévu cet après-midi, j'ai un impératif, je dois pouvoir me rendre chez le médecin ou autre chose. J'ai des problèmes personnels, je veux qu'on puisse alléger ma charge de travail. Donc il y a un vrai sujet qu'on voit peut-être au niveau des entreprises, à tout ce qui concerne l'autonomie, à tout ce qui concerne la confiance qu'on peut donner à ses salariés. Le deuxième sujet, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, hein, peut-être plus à destination des cadres, c'est tout le sujet des smartphones, hein, des mails qu'on reçoit, des téléphones. Effectivement, il n'y a plus de coupure entre vie professionnelle et vie privée. Moi, je sais, par exemple, il y a des collaborateurs qui refusent un téléphone professionnel. Ils disent, moi, je veux préserver ma vie privée, donc je ne veux pas de téléphone professionnel. Alors après, on parle de droit à la déconnexion et les entreprises qui ont résolu le problème en coupant les mails de manière informatique, par exemple, entre 19h et 7h du matin. Le troisième sujet, c'est le télétravail. Alors, il est peu développé en France, je trouve. En France, on est surtout on doit rester au bureau, hein, c'est l'hyperprésence, c'est la culture de l'hyperprésence. Ça fait bien de rester au bureau, de rester tard le soir. On le vit, on l'a tous vécu. Hein. Et pourtant, c'est dommage, puisque un salarié qui pratique le télétravail, c'est un salarié qui est moins stressé, qui est sûrement plus efficace, qui est moins fatigué parce que ça lui évite les temps de transport. Donc il y a un vrai sujet, à mon sens, à développer dans les entreprises. On y va, mais je trouve quand même assez doucement. Et le dernier point, c'est un sujet de managérial, à mon avis, hein. C'est que les salariés demandent beaucoup, au niveau de leur manager, d'avoir plus de délégation, plus d'autonomie. Donc je pense qu'il faut vraiment que les entreprises développent la culture managériale dans leur entreprise et développent les formations managériales. Parce que, en synthèse, hein, finalement, un salarié heureux sera beaucoup plus efficace dans son travail.
Merci. C'est une leçon pour moi, ça, d'essayer de couper un tout petit peu entre la vie privée et la vie au travail. C'est quand même assez difficile, hein, je tiens à vous le dire. Marc-Olivier Strauss-Kahn, directeur général en charge des études et des relations internationales à la Banque de France. Vous avez participé ici à ce micro-trottoir. Quelle conclusion générale vous pourriez apporter par rapport aux remarques que nous avons faites ?
Conclusion générale, ça serait beaucoup dire bonjour d'abord. Il y aurait beaucoup à dire. Il y a eu des vues très contrastées dans ce micro-trottoir assez décapant. Je vais peut-être revenir sur l'idée de la mosaïque qui a été évoquée au début pour essayer de réconcilier les thèmes de l'éducation, des mutations technologiques, de la mondialisation de l'Europe, en insistant en particulier sur ces deux derniers termes. Mais d'abord, je voudrais commencer par un constat d'humilité, celui des économistes dont je fais partie, parce que nous n'avons pas su voir venir, nous n'avons pas pu prévenir et nous ne pouvons pas bien expliquer cette perception croissante d'une montée des inégalités qui est souvent associée à la mondialisation malgré la construction européenne. Et je crois que l'Europe, ça n'est bien sûr pas un cheval de Troie de la mondialisation, ça ne doit pas être perçu non plus comme un rempart absolu face à l'invasion de produits étrangers, ça n'est pas non plus une ligne Maginot-illusoire, c'est en fait un tremplin régional. Pour jouer au niveau global, au niveau mondial, il faut bien sûr agir au niveau local, et on a là des politiques qui le font. Mais il faut penser, il faut construire au niveau régional, c'est-à-dire européen. Et je voudrais en donner deux exemples rapides, parce qu'on a tendance à les oublier, de ce qu'a apporté la zone euro. Le premier, c'est l'atténuation des chocs liés au mouvement des grandes monnaies, le dollar, bien sûr sur notre commerce, puisque la moitié de notre commerce est fait avec des pays qui ont également adopté l'euro, et donc ça divise par deux, en quelque sorte, l'impact de ces chocs. Nous ne sommes pas perturbés par ces mouvements lorsque nous faisons du commerce avec les pays de la zone euro. Mais il y a aussi un impact bénéfique du point de vue de la sphère financière. C'est un peu plus compliqué, mais je vais prendre une image, celle de 1994. Le dollar, à l'époque, avait chuté d'à peu près 17 à 20%. Et le Deutsche Mark s'était envolé et les taux d'intérêt en France s'étaient envolés également pour protéger notre monnaie et ça avait handicapé la croissance. En 2007, on a l'euro, le dollar également s'effondre d'à peu près 17%, presque pas de mouvement sur les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont d'ailleurs très bas, pas que à cause de l'euro, à cause de mouvements plus généraux. Mais ces taux d'intérêt très bas, et c'est le deuxième exemple, ne doivent pas nous anesthésier, ils doivent nous stimuler. Et quand je fais une comparaison entre la France et l'Allemagne, eh bien, il faut bien reconnaître qu'en termes de croissance, en termes d'emploi, alors que la France avant était en avance, c'est maintenant l'Allemagne qui fait mieux que nous et mieux que la moyenne de la zone euro, parce qu'ils ont fait les réformes nécessaires, parce qu'ils se sont aidés eux-mêmes dans les années 2000. Donc je ne sais pas si nous avons tendance à emprunter la piste bleue, hein, qui est la couleur de la France, ou si c'est la piste rouge qu'il faudra emprunter avec l'Allemagne, ou la piste noire. En fait, il faut pouvoir savoir prendre différentes pistes. simultanément. Ce micro-trottoir reflète un peu des idées reçues. Et tout à l'heure, on va voir avec le sondage qui a été fait, qui était un peu plus précis, qu'on a également des résultats un peu paradoxaux.
On va même le voir tout de suite, Marc-Olivier. Je pense qu'on peut tout de suite passer au sondage qui va nous permettre de prolonger les réflexions que nous avons faites immédiatement.
Alors, c'est la cinquième année qu'on fait ce sondage. Il y a des questions qui sont rituelles, qui sont en fait et qui nous permettent d'avoir des repères. Et puis, il y en a qui sont un peu nouvelles. Donc, c'est un sondage qui est fait selon la méthode classique, 1000 personnes pendant le courant du mois d'octobre. Par téléphone avec les quotas, ce qui fait qu'il est représentatif de la population française. Alors, la première question qui est posée chaque année est l'intérêt, je ne vois pas très bien d'ici, mais je le connais à peu près, l'intérêt pour l'économie qui reste majoritaire avec 52%, mais qui est en baisse. Et il est en baisse en particulier, pas ou peu d'intérêt pour les populations les moins favorisées, les catégories sociales professionnelles les moins élevées, et pour les jeunes, ce qui est un élément d'inquiétude. Pour le commenter, je vais passer à la diapo suivante. L'ensemble de cette enquête, je n'en ai pris que les caractéristiques les plus frappantes, est disponible sur le site des Journées de l'économie et sur le site de la Banque de France également. Donc vous avez pu découvrir la deuxième question qui est classique aussi et qui est sur le niveau de connaissance des Français. Il reste moyen, mais il est en léger progrès, en particulier quand on pose la question aux personnes sur leur niveau à eux. Ce qui est amusant, et c'est classiquement le cas, c'est que les Français considèrent qu'ils sont en général meilleurs que la moyenne des Français. Il y a une petite contradiction là-dedans, mais ce n'est pas grave. Et peut-être ceci explique cela. C'est-à-dire qu'il y a une meilleure éducation, il y a une meilleure connaissance, une meilleure information, voire peut-être une saturation. Et ça pourrait expliquer peut-être une lassitude qu'on a vue tout à l'heure. Ou bien c'est la façon d'expliquer l'économie qui n'est pas au point, l'éducation qui doit être vue, la pédagogie, et notamment par différents moyens. Et c'est un sujet sur lequel la Banque de France, je vais faire un tout petit peu de publicité, passe beaucoup de temps. Elle est devenue l'opérateur national pour toute la France de l'éducation économique et financière. Et je vous invite à aller visiter un site qui s'appelle tout simplement Citeco, pour citer de l'économie, citeco.fr, et qui permet de mieux comprendre l'économie. Troisième question, sur quel type d'informations les Français veulent-ils en savoir plus? Avant tout sur la situation de l'État et des finances publiques. L'emploi vient en deuxième, mais ne vient qu'en deuxième. En revanche, la protection sociale, l'inflation, etc., tous ces éléments n'arrivent qu'ensuite. Troisième série de questions que nous avons posées pour la première fois et que j'ai résumées sur cette diapo, l'utilisation de l'épargne et du crédit. Alors, il y a plusieurs questions. La première, on suppose que vous recevez de façon imprévue 5000 euros et vous devez les épargner. Qu'en faites-vous? On pouvait s'y attendre. Un tiers des Français répondent qu'ils vont les placer sur un compte d'épargne. Ça, c'est les catégories socio-professionnelles les moins favorisées et les jeunes qui le font le plus. 20% vont le placer en assurance vie, à capital garanti en général. Ça, c'est les catégories sociales professionnelles les plus élevées et les personnes les plus âgées. Et puis 20% vont aller consulter leur banquier. Mais 20% seulement, on y reviendra peut-être. Question suivante, c'est dans l'autre sens cette fois-ci. En cas de dépenses imprévues, 500 euros, qu'est-ce que vous faites? 70% des Français puisent dans leur épargne régulière. Vous vous dites peut-être que c'est évident. Il faut savoir qu'aux États-Unis, pour la même question, avec 400 dollars, seulement 50% des Américains disent qu'ils peuvent aller puiser dans leur épargne. Les autres sont obligés soit d'emprunter, soit de vendre un bien. Question suivante et qui est liée, qu'est-ce qui motive la demande d'un crédit? Soit qu'elle ait été effectuée, soit qu'elle ait été envisagée dans les 12 précédents mois. C'est avant tout l'achat d'un bien immobilier et foncier, qui est le premier motif, et de loin. Et à l'extrême inverse, j'ai voulu souligner ici en rouge, parce que ça m'a inquiété, le fait que 11% des ménages aux revenus inférieurs au SMIC disent qu'ils sont prêts à envisager ou qu'ils ont obtenu un emprunt pour payer leurs dépenses régulières, pour payer leurs impôts, pour payer leurs factures d'impayés. C'est-à-dire qu'on entre dans un cercle vicieux, celui du surendettement. Et c'est là qu'il y avait une question sur le surendettement pour la première fois, qui fera l'objet d'une conférence dans CEGECO, et où 40% des sondés disent connaître le rôle de la Banque de France, on peut considérer que c'est pas mal, mais c'est plutôt les catégories socioprofessionnelles assez aisées qui ne sont pas les populations les plus fragiles. Donc nous avons du travail encore à faire à la Banque de France. Une question ensuite sur l'inflation, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, donc très rapidement. Comme classiquement, les Français surestiment un peu l'inflation. Elle a été en réalité de 0,4% dans les 12 derniers mois. Et simplement, 12% des Français donnent la bonne réponse. 70% considèrent que ça a plutôt augmenté. Et même 58% au-dessus de 1%. Question suivante sur les perspectives économiques, qu'elles soient françaises ou qu'elles soient européennes. Et là, le doute... l'inquiétude ressurgit. On n'est pas retombé au niveau de 2014, mais il y a une majorité de Français qui sont inquiets sur les perspectives, que ce soit pour la France ou que ce soit pour l'Europe. Et cette inquiétude, on va la... une question sur la libéralisation. Et elle est assez contrastée, celle-ci, vous allez la voir. Qu'est-ce qu'on a en haut? On a la réponse à la question, êtes-vous favorable ou opposé aux réformes et orientations économiques, et notamment à la libéralisation. Et là, il y a une majorité de Français qui répond très clairement, 59%, qu'ils sont pour. En revanche, lorsqu'on pose une question plus spécifique sur le marché du travail, notamment, et l'allègement des normes, peut-être à cause des tensions qu'il y avait eu autour de la loi El Khomri, les Français sont partagés. Et on a 47% qui sont pour et 47% qui sont contre. L'inquiétude que j'évoquais tout à l'heure, on la retrouve, pas de façon excessive, car elle s'est réduite par rapport à l'année dernière, mais néanmoins, des Français considèrent que dans la construction européenne, certains éléments pourraient être remis en cause. Et vous voyez en orange des fortes majorités pour lesquelles la politique agricole commune, les accords de Schengen... et d'autres éléments que vous voyez mieux que moi sont considérés comme pouvant être remis en cause, mais pas l'euro. 57% considèrent que l'euro ne peut pas être remis en cause. Je rappelle que c'est un chiffre différent qui sont combien les Français soutiennent l'euro. Là, c'est 70%. Et ça m'amène à la dernière diapo, dont je dois dire qu'elle m'a surprise, parce qu'elle montre que les Français sont très favorables, de façon écrasante, au renforcement de l'intégration européenne en matière économique, sociale et fiscale, la défense que Louis Gallat a citée tout à l'heure, mais aussi la coordination des politiques économiques, des politiques sociales, des politiques fiscales, jusqu'à l'investissement qu'on retrouve dans le plan Juncker. Et je ne m'attendais pas, je dois dire, à un tel résultat. Je me demande où sont passés les eurosceptiques.
Première réaction peut-être, Gérard Collomb. On pourrait se demander s'il n'y a pas une contradiction dans les réponses là, des Français qui souhaitent plus de libéralisation de l'économie, mais en même temps qui sont très réticents à l'allègement des réglementations.
Mais je pense qu'en fait, ils sont pris dans une contradiction. C'est-à-dire qu'ils voient bien quel est le mouvement du monde et qu'évidemment, pour pouvoir être compétitif dans l'économie, pour pouvoir produire ce que nous ne produisons plus aujourd'hui. Enfin, la chute de nos industries a été extraordinaire en l'espace d'une quinzaine d'années. Et donc, nous sommes, par exemple, par rapport à l'Allemagne, des pays où l'industrie a la part la moins importante. Donc, ils voient bien qu'il faut libéraliser les choses. Et en même temps, évidemment, ils ont un certain nombre de craintes. C'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent dans une France où il y a 5 millions de chômeurs, on a tendance effectivement à se replier, à défendre ce que l'on a aujourd'hui plutôt que d'évoluer. Or, je crois qu'il faut évoluer parce que, évidemment, les conditions d'aujourd'hui ne sont pas les conditions qu'on avait hier, qu'on avait par exemple pendant les Trente Glorieuses. Je vous rappelle par exemple qu'en 1947, quand on crée la sécurité sociale, le chômage ne fait pas partie des risques parce qu'il n'existe pas. Il n'y a pas de chômage en France. Donc, évidemment, la situation change beaucoup. C'est à partir de 1958 qu'on crée effectivement une assurance chômage. Et on voit bien que ce problème est aujourd'hui au cœur des préoccupations des Français, que chaque fois, ils ont l'impression, quand on touche au code du travail, quand on veut réformer, que ça va se retourner contre eux. Mais je crois que ce qui se retourne contre eux, c'est le fait justement d'un tel décalage, je dirais, de notre protection sociale aujourd'hui par rapport à l'environnement économique mondial. Vous voyez, par exemple, pour les jeunes, on sait qu'aujourd'hui, 90% des nouveaux emplois, quand on entre sur le marché du travail, on est un CDD. Et que pour les deux tiers de ces CDD, vous êtes effectivement sur des CDD de moins d'un mois. Donc nous aurons Jean Tirol avec nous, des gens comme Xet peuvent avoir des réflexions différentes, mais en tout cas, il se pose un problème là, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à entrer pour les moins qualifiés sur le marché du travail et les autres sont à la peine. Après, on se dit qu'il faut que notre industrie puisse muter. Si on veut être compétitif, il ne faut plus produire ce qu'on produisait hier, mais produire évidemment ce dont on a besoin, ce que nous apportent les nouvelles technologies, les nouveaux usages que nous avons. Or, on peut regarder, nos téléphones sont étrangers, nos tablettes sont étrangères, nos ordinateurs sont étrangères. Donc il faut que notre industrie mute. Et elle doit muter chaque jour davantage. Donc il faut permettre de la mobilité. Il faut permettre que l'emploi puisse effectivement changer. Tirole toujours dit, ce n'est pas les emplois qu'il faut préserver, c'est les personnes. Et donc c'est tout le problème de l'instauration d'une flex-sécurité en France qui permette aux entreprises d'être dans le mouvement, mais aux salariés d'être protégés, d'être formé et donc de pouvoir se redéployer dans de nouveaux métiers. Parce qu'on le sait, dans les années après la guerre, on rentrait dans une entreprise, on y restait pratiquement jusqu'à la fin de sa vie. Ce ne sera plus le cas demain. Il faudra se reconvertir sans cesse à de nouveaux métiers. Il faut inventer de nouveaux systèmes de régulation en matière de droit du travail.
Merci. Cette question d'ailleurs quand même d'accès à l'emploi devrait normalement nous ramener aux entreprises. Et Emmanuel Imberton, c'est quand même surprenant alors qu'il y a une réelle inquiétude, c'est vrai, sur l'accès à l'emploi. Quand on regarde ce sondage, on constate que dans les sujets où les Français aimeraient être mieux informés, le fonctionnement des entreprises arrive en dernier. Alors est-ce qu'il y a un manque d'intérêt pour les entreprises ou est-ce que les emplois vont se créer ailleurs?
Oui, je n'ai pas tout à fait la même lecture. Moi, je considère au contraire que les Français, à travers ce sondage, ne souhaitent pas être mieux informés parce qu'ils le sont déjà beaucoup dans leur vie de tous les jours et dans la vie de leur entreprise. Le sujet sur lequel les Français aimeraient être les mieux informés, c'est évidemment des sujets qui les préoccupent le plus et ils ont raison à la vue de ce sondage. Un, la situation de l'État et des finances publiques. Nous avons ici en France le record absolu en termes de fonction publique. C'est là où elle pèse le plus dans l'économie. La dette vient bientôt représenter 100% du PIB. Et donc c'est normal que les Français, sur cette situation catastrophique, je vous rappelle quand même que l'État n'a pas présenté un budget équilibré depuis 1974, et les Français voient bien la différence entre ce qui se passe dans leur entreprise et ce qui se passe au niveau de l'État. Autrement dit, si dans nos entreprises, on avait la même vision de la gestion qu'à l'État aujourd'hui, ça fait longtemps que nous aurions disparu. Et donc, moi, je vois à travers ce sondage la vraie vérité de la vie de tous les jours, où les Français sont plutôt heureux de travailler et où ils trouvent probablement que le fonctionnement et la vie de leur entreprise sont clairs. On l'oublie souvent, mais l'entreprise est une vraie fabrique d'intégration. C'est ici que les gens se forment, c'est ici qu'ils respectent les autres, c'est ici que se vit la diversité, beaucoup mieux dans une entreprise que dans la vie de tous les jours. Quand vous êtes sur un poste de travail que vous partagez dans une entreprise, dans nos entreprises, on ne regarde pas ses problèmes, la couleur de peau de la personne qui travaille avec nous. On accepte la diversité. Moi, je suis un entrepreneur de Vaux-en-Velin. D'accord ? Ça fait longtemps qu'on a bien tous compris à Vaux-en-Velin que c'était à nos entreprises de faire ce job d'intégration. Et je constate, et les salariés me le disent, que ça se passe bien mieux dans nos entreprises qu'à l'extérieur. Ce matin, si certains d'entre vous ont écouté, comme moi, le PDG de Paprec, qui est une entreprise qui se situe dans le 93 avec 4000 salariés dans des métiers un peu compliqués, écoutez ce PDG qui nous a expliqué comment se vivait le dialogue interreligieux dans son entreprise, comment on respectait chacun dans sa diversité, comment les gens travaillaient ensemble, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur fonction, quelle que soit leur formation, avec beaucoup de respect. Je me dis simplement que la vie publique, la collectivité, l'État devraient prendre plus exemple sur ce qui se passe dans nos entreprises.
Oui. Message optimiste et pessimiste, moi j'ai l'impression. En fait, on reporte là un peu sur l'État et sur la gestion.
Alors, pour celui qui me dit pipo, je vais lui dire que j'ai une conviction, c'est que ce sont les entrepreneurs qui vont sauver la France.
Dans le sondage, je pense, Jean-Louis Guyader, peut-être que l'enchaînement serait pas mal trouvé. On voit que les Français sont assez pessimistes, qu'ils anticipent plutôt une dégradation de la situation économique. Ils ont une vision, en tout cas macroéconomique, on peut dire, qui est assez sombre.
Vous savez, il faut rapprocher ce sentiment que manifestent les Français de ce qu'a dit Gérard Collomb. Il y a 5 millions de chômeurs en France, c'est-à-dire que toutes les familles sont touchées, toutes les familles sont dans la difficulté. Alors, même si on a 3 enfants, ce qui est mon cas, s'il y en a 2 qui travaillent et qu'un autre ne travaille pas, la situation est mauvaise. Donc c'est ça qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'on est vraiment touchés tous. Alors, ceci étant dit, et je pense qu'il y a, vous savez, on est quand même un peuple latin essentiellement, et les Latins aiment le matériel, les ponts, les routes, et il semblerait que l'avenir de l'homme aujourd'hui soit immatériel. Donc le soft prend le pas sur le hard en ce moment, et moi je connais des gens qui le vivent mal, c'est-à-dire qui ne se reconnaissent pas dans cette modification des habitudes. On parlait des CDD, 90% en première embauche, mais en fait la mutation va aller bien au-delà, c'est-à-dire qu'on sera plus salarié. Une grande majorité des gens qui travailleront le feront, j'espère, dans des conditions les moins précaires possibles, mais vous savez, l'attitude de l'enfant qui attend, il a fait ses études, il a son diplôme, et puis il attend qu'on l'appelle pour lui offrir un CDI, c'est dramatique, et ça, les familles le vivent. Et un jour ou l'autre, il faut qu'il y aille, il faut qu'il essaye de trouver son boulot. Alors, dans mon petit territoire, qui est celui de la plaine de l'Ain, on a créé ce qu'on appelle le Lab 01, donc c'est dans le département de l'Ain. C'est quelque chose où il y a du coworking, donc pour le travail à distance, où il y a un Fab Lab pour essayer d'innover en s'amusant, et puis surtout c'est un lieu de rencontre. Moi j'y crois beaucoup, c'est le premier de l'Ain et on en est content. Et ben, moi j'ai des collègues qui me disent mais ça c'est de la communication. Eh bien non, ça n'est pas de la communication, il faut voir que tout le monde ne sera pas salarié dans le monde à venir. Alors moi aussi je crois aux entreprises, hein, et je crois que c'est celles-ci qui vont apporter la richesse du pays. Mais aujourd'hui, les entreprises qui vont être très importantes dans 50 ans, on ne sait même pas ce qu'elles feront réellement. On est dans un monde en mouvement et le mouvement inquiète forcément. Donc je crois que ce pessimisme, il faut le respecter parce qu'il est vraiment ressenti. Et encore une fois, je pense qu'on est rentré dans un processus de destruction d'emplois en espérant qu'il y ait construction d'emplois dans un temps pas trop lointain. Et c'est pour ça que je répète, je pense que la solidarité, il ne faut absolument pas la détruire avec une vision un peu trop libérale des choses. On en a besoin dans cette période extrêmement difficile.
Merci. Ce changement dans le monde du travail, hein, Fab Lab, Hackerspace, on va en parler demain en direct avec nos collègues de Montréal, parce que je pense que c'est des enjeux qui sont importants pour qu'on puisse voir des perspectives d'avenir. Il y a quand même un point, par contre, qui m'a surpris, moi, dans le sondage, et je voulais poser la question à Louis Gallois, c'est que les sondés, quand on regarde, ils sont prêts à renforcer l'intégration européenne sur de nombreux domaines. Et par rapport à ce qu'on avait vu avant dans le micro-trottoir, j'ai l'impression que là, il y a une différence quand même importante d'appréciation.
Je voudrais d'abord peut-être poursuivre un débat avec... Je profite de ma situation de grand témoin pour suivre le débat avec M. Strauss-Kahn sur la zone euro. Il en a fait une description très positive et avec des arguments solides. Mais il faut quand même regarder aussi les deux côtés de la médaille. La zone euro, c'est la zone de basse croissance dans le monde depuis 10 ans. C'est la zone de plus basse croissance dans le monde depuis 10 ans. Alors, est-ce que c'est un problème de réglage macroéconomique, des politiques macroéconomiques ? Est-ce que nous avons adopté, à la sortie de la crise, la bonne politique en Europe ? Est-ce que le fait d'avoir mis l'accent sur la réduction des déficits, l'austérité, alors que les Américains, eux, relançaient d'abord leur économie avant de se livrer à cette politique de retour aux équilibres, je pense que la question mérite d'être posée. C'est d'ailleurs la question que pose Stiglitz dans son livre. Et je pense que c'est extrêmement important. Je note aussi que cette zone euro qui n'a pas de mécanisme interne de convergence, qui a une monnaie unique sans mécanisme de convergence, ça se traduit par le renforcement des forts et l'affaiblissement des faibles. Et que nous avons actuellement une Europe qui diverge au sein de la zone euro et non pas qui converge. Donc moi je pense que zone euro ne peut pas exclure, ne peut pas faire l'économie de mécanismes de convergence qui ne sont pas en place. Alors j'en viens maintenant à la question sur l'intégration européenne. J'en viens à la question sur l'intégration européenne. Moi, je suis quand même assez surpris par ce résultat. Je le prends tel qu'il est. Mais enfin, chaque fois qu'on interroge les Européens par des référendums, ils vont dans le sens de la non-intégration. Référendum en France, référendum aux Pays-Bas, référendum en Hongrie sur les migrants, Brexit. Chaque fois qu'il y a un référendum, actuellement, la réponse, elle n'est pas une réponse d'intégration européenne. Je pense qu'il faut l'écouter, ça. On ne peut pas rester à l'écart de cette formidable interrogation des opinions publiques. Et donc, je suis très, très, un peu sceptique sur ce sondage. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'Europe. Donner un sens à l'Europe. Moi, je pense que l'Europe doit devenir pour les Européens, pour les Français, pour les Européens, quelque chose de concret, qu'ils touchent du doigt. Et ça ne peut être qu'une Europe de projet. Je crois qu'ils en ont par-dessus la tête qu'on leur parle institution, qu'on leur parle macroéconomie. Ils veulent des projets. Qu'est-ce qu'on fait sur la jeunesse européenne ? Madame Merkel a fait une proposition sur la jeunesse européenne. Quelle suite ? Il y a un problème sur la jeunesse européenne. On le sait très bien, dans tous les pays, il y a un problème de jeunesse. Pourquoi ne peut-on pas le travailler ensemble ? Il y a l'Afrique. L'Afrique, c'est le continent qui va connaître la plus forte croissance démographique dans les années, dans les décennies qui viennent. Il y aura 2,5 milliards d'Africains, ils sont 1 milliard actuellement, ils vont vers 2,5 milliards. Ils sont à nos portes. Nous les craignons parce que nous craignons les flux migratoires. Et en même temps, ça peut être un potentiel de développement formidable si nous sommes capables de travailler avec eux. Il y a l'énergie. Il n'y a pas de politique énergétique en Europe. Ce qui se passe entre l'Allemagne et le reste de l'Europe est catastrophique. On a le développement des énergies intermittentes en Allemagne qui sont en train de mettre le foutoir dans le prix de l'énergie en Europe. Et en même temps, l'Allemagne qui développe les énergies renouvelables est le pays qui pollue le plus par l'utilisation du charbon et de la lignite pour la production de son énergie à hauteur de 45%. Et on est en train de remettre en cause le parc nucléaire français et son utilisation parce que nous avons, voyons, déferlé des énergies renouvelables de manière intermittente sur les réseaux dans des conditions qui perturbent complètement l'alimentation énergétique du pays, de l'Europe. Je pense que là, il y a un vrai sujet que l'on n'a pas été capable de traiter. Le numérique. La grande question est de savoir si nous allons laisser les GAFA dans une situation de monopole comme on n'en a jamais connu dans l'histoire. Nous avons 4 entreprises ou 5 entreprises, parce que maintenant il faut y ajouter Microsoft, qui sont en train de créer des monopoles auxquels seule résiste la Chine. Et ces situations de monopole vont faire de ces entreprises des entités plus puissantes que les États. Que fait l'Europe face à cela? Comment nous constituons-nous de telle manière que l'Europe numérique existe? La lutte contre la pauvreté. Il y a 80 millions de pauvres en Europe, dans le continent le plus riche du monde. 80 millions de pauvres. Est-ce que c'est une situation acceptable? Vous parliez, à juste titre, de solidarité. Je pense que la mondialisation est en train de créer des fractures au sein de nos pays, entre ceux qui peuvent se faire embarquer dans la mondialisation et ceux qui sont complètement tenus à l'écart de cela. Je reviendrai sur ce point. Est-ce que ce problème, on le trouve dans tous les pays d'Europe. C'est le sud de l'Italie face au nord. C'est la moitié de l'Espagne face à la Catalogne et au Pays Basque. C'est la France des 15 métropoles, dont la plus glorieuse, évidemment, celle de Lyon. Et je vous conseille d'aller vous promener en Picardie, dans les Ardennes, dans le Massif central, dans le Limousin. Vous verrez un pays qui souffre. Et je pense que on a ça en Allemagne, entre les Länder de l'Est et ceux de l'Ouest. Le Brexit, c'est la réaction d'un pays qui ne supporte plus que tout aille vers Londres. Je pense que nous avons là des grands défis européens. Si nous ne sommes pas capables de focaliser ces défis, si nous ne sommes pas capables de focaliser, nous n'intéresserons pas les Européens à l'Europe. Pire, nous risquons de les éloigner de l'Europe, et l'Europe n'est pas à l'abri de l'explosion.
Merci. Bon. Je crois que vous êtes d'accord avec moi qu'on a un grand témoin qui vient de donner un souffle incroyable à nos 3 journées de l'économie. Et je vois que Gérard Collomb a très très envie de réagir.
Non, simplement rappeler à Louis Gallois qui parlait de la métropole de Lyon, que la métropole de Lyon n'a pas toujours eu le développement qu'elle connaît aujourd'hui. Et qu'il y a une vingtaine d'années, nous avons connu de graves crises. C'est-à-dire que nous étions par exemple dans le textile, et le textile s'est effondré. Moi, il se trouve que dans mon arrondissement, j'avais la grande usine Rodiaceta, 7500 personnes, qui en l'espace de 5-6 ans s'est totalement affaissée et a fermé. Nous avions une industrie chimique ancienne qui a connu des soucis majeurs. Nous avions une métallurgie ancienne qui avait fermé. Moi, dans l'arrondissement où j'avais été élu à l'époque, c'était une gigantesque friche industrielle. Et les grands arrondissements industriels de Lyon étaient devenus des friches industrielles profondes, avec un pessimisme total. Et on avait deux positions possibles. Soit continuer à se lamenter et à invoquer un passé glorieux, soit dire qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui l'avenir de cette agglomération. Et on a regardé tout ce qui était effectivement innovation, capacité, jeunes entreprises qui pouvaient se développer. Et à partir de là, petit à petit, on a remonté la pente. Et moi, je ne pense pas qu'il y ait des régions qui soient aujourd'hui condamnées. Alors je vois bien l'écart qui peut exister entre un certain nombre de régions. Et je vois bien qu'aujourd'hui la France est différente, avec des régions qui vont de l'avant et d'autres qui effectivement régressent. Mais je pense qu'aucune région n'est condamnée, à condition effectivement d'essayer de comprendre qu'on est dans un nouveau cycle, de regarder quels sont ses propres atouts et à partir de là, de reconstruire une économie qui soit l'économie de demain, évidemment pas vouloir maintenir l'économie d'avant-hier, parce que là, on est sûr d'échouer.
Bon, nous explosons le timing de la séance d'ouverture et je crois qu'en fait, Louis Gallois et Gérard Collomb vont certainement continuer sur une partie de la journée un débat très intéressant. Bon, Louis Gallois.
Je peux dire un mot à Gérard Collomb. D'abord, je veux saluer l'extraordinaire travail qui a été fait à Lyon. Absolument remarquable et qui fait que Lyon est un des pôles de développement du pays. Mais qu'est-ce que je constate quand même dans le pays? Il y a 15 métropoles. C'est là où se concentre la recherche, les universités, les investissements d'avenir que j'ai gérés pendant 2 ans. 90% dans les 15 métropoles. 90%. Eh bien, c'est là où il y a de la matière grise, c'est là où il y a de l'emploi qualifié. On constate d'ailleurs que c'est là où le chômage est faible et c'est là où le Front National ne perce pas. Je pense que ce n'est pas un hasard. Je pense que nous devons faire attention au reste du pays. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas des zones dans le reste du pays qui se portent bien. J'en ai cité quelques-unes. La Vendée est un écosystème absolument remarquable. La région d'Oyonnax avec la plasturgie, la vallée de l'Arve, etc. Mais la réalité du développement du pays, la réalité du dynamisme du pays maintenant, c'est 15 métropoles et c'est un phénomène mondial. C'est pas un phénomène français, c'est un phénomène mondial. Mais si nous ne sommes pas capables de traiter ce phénomène de telle manière que le reste du pays n'ait pas l'impression d'être abandonné, d'être laissé à lui-même, je pense que nous allons vers de très graves difficultés. Je pense que c'est le principal pays de la France aujourd'hui, le principal problème de la France aujourd'hui, que ce risque de fracture, je rappelle que ça veut dire quand même 25 à 30% de vote Front National. Et il faut quand même qu'on y réfléchisse.
Essayons de finir quand même sur le sondage. Bernard Bigot, on voit que les Français ont une compréhension de l'économie qu'ils estiment toujours moyenne. Est-ce que c'est parce qu'on est des pédagogues beaucoup moins talentueux que Louis Gallois et Gérard Collomb et qu'on n'arrive pas à faire passer un certain nombre de messages?
Écoutez, d'abord, premièrement, ce que je retiens de cette table ronde et ce sondage, c'est que nous sommes devant des choix majeurs. Et ces choix, ils sont des choix qui doivent mobiliser l'ensemble de la société. Pas simplement quelques penseurs, pas simplement quelques décideurs, ils doivent mobiliser l'ensemble de la société. Et si nous voulons que la société puisse donc promouvoir, accompagner, comprendre, participer à ces choix, il faut qu'elles en comprennent les ressorts. Et je suis un scientifique et pour moi, on ne peut vraiment commencer à débattre scientifiquement si on a un fond de culture, un fond de connaissance. Et je trouve très nécessaire que chacun, il y a des choix individuels, on l'a vu, investissement donc familial, donc épargne, etc. Il y a des choix donc qui sont des choix d'État, il y a des choix qui sont des choix collectifs. Ça ne peut se faire que si les gens comprennent les enjeux. Et c'est pour ça, je crois que des journées comme celle-ci sont tout à fait remarquables, d'offrir aux uns aux autres la possibilité d'un accès à une information. Mais ne nous trompons pas, cet accès à l'information, elle exige un effort de tous. Nous ne pouvons pas débattre s'il n'y a pas un minimum de connaissances et de savoir. Et cela, c'est un effort individuel qu'il faut savoir faire. Et donc, c'est compléter à la fois cet effort individuel et ce débat collectif que je retiens.
Merci. Dans le sondage, encore deux petits éléments et on va s'arrêter. Je voyais, Jérôme Balek, finalement, on n'est pas tellement tenté de consulter son banquier.
Oui, c'est un sujet beaucoup plus léger que ceux qu'évoquaient Louis Gallois à ma droite et Gérard Collomb à ma gauche. Mais effectivement, en tant que banquier, j'en prends pour mon grade, en quelque sorte. Et j'ai regardé le sondage dans le détail, nous ne sommes même pas sur le podium. Donc il faut qu'on réagisse. Moi, je vois plusieurs choses, rapidement, trois éléments. Le premier élément, c'est que je pense que si nous avions fait ce sondage il y a une vingtaine d'années, nous serions beaucoup plus haut dans le classement. Pourquoi ? C'est parce qu'aujourd'hui, effectivement, nos clients sont surinformés. Aujourd'hui, toute l'information est sur Internet. Hein. C'est très facile, par exemple, de connaître le taux du livret A. Alors, c'est peut-être pas l'essentiel. C'est très facile de connaître les avantages et inconvénients, la fiscalité de l'assurance vie. Bref, toute cette information existe et du coup, le client est beaucoup plus autonome et a moins recours aux conseillers clientèle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième élément, c'est qu'il faut réagir, c'est ce que je disais, et il faut qu'on soit beaucoup plus proactif. Hein. Aujourd'hui, si je reprends l'exemple du sondage, par exemple, nous avons tous les moyens de connaître effectivement qu'un épargnant a une somme de 5 000 euros. Il faut tout de suite l'appeler. Ce n'est pas forcément ce qu'on fait, donc il faut qu'on réagisse, il faut l'appeler, l'accompagner, lui apporter des solutions, être force de proposition. Donc il y a tout un sujet à faire et je pense que de plus en plus, il faut que ce soit des experts qui l'appellent puisque le client, en plus, quelquefois, autant d'informations que moi. Donc il faut vraiment que ce soit des experts du crédit, des experts de l'épargne, des experts du marché action, etc. Ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point qui est vraiment à nos portes, hein, qui va arriver, qui arrive même maintenant, des start-up, des fintechs travaillent dessus, c'est tout ce qui est l'intelligence artificielle. Hein. Donc c'est la création d'algorithmes qui vont traiter des data, qui vont traiter des données, par exemple sur toutes les habitudes de nos clients, sur leur mode de consommation, sur leurs revenus, sur leur appétence au risque. Et de ce fait-là, on va pouvoir effectivement donner une allocation personnalisée aux clients. Alors, ce n'est pas que le digital ou la machine, comme on dit, décide à notre place, hein, mais c'est vraiment une aide à la décision. Donc, moi, ce que je vois pour les banquiers, hein, par rapport à ce sondage, c'est de plus en plus un mix entre le conseiller clientèle qui va accompagner le client et le digital qui va donner, qui va permettre une aide à la décision. Hein, c'est ce qu'on appelle le meilleur de l'humain et du digital, finalement.
Merci. Bon, on va vraiment terminer maintenant. Est-ce qu'il faudrait mettre un petit peu d'intelligence artificielle pour que les Français comprennent que l'inflation est moins élevée qu'ils ne le pensent ? Puisque c'est tous les ans, dans le sondage, il y a au moins une chose sur laquelle vous êtes régulier, c'est que vous êtes persuadé qu'il y a de l'inflation. Marc-Olivier Strauss-Kahn.
Alors, l'inflation, oui. Un mot quand même sur la croissance, je ne résiste pas, qui a été évoqué par Louis Gallois et Gérard Collomb, peut-être pour les, sinon les réconcilier, du moins les rapprocher. Je crois qu'au-delà des politique macroéconomique, ce qui compte, c'est surtout d'augmenter le potentiel de croissance. Et c'est là que vous vous rejoignez. Ça se fait par plus de productivité, ça se fait par des réformes, ça se fait par des projets. Et si on compare les États-Unis et la zone euro, les taux de croissance, fondamentalement, ils ne sont pas très différents en 2015-2016, et ils sont en tout cas insuffisants autour de 2%, ou en dessous de 2%. Maintenant, l'inflation, elle est perçue par 28% des Français comme au-dessus de 2%, c'est-à-dire très au-delà de la réalité. Et vous pouvez vous dire comment ça se fait que les Français se trompent comme ça. En réalité, c'est un phénomène un peu classique. Les prix qui augmentent, ceux que l'on voit dans le quotidien, c'est ceux que l'on remarque le plus souvent et qui vous frappent. Les prix qui baissent, comme par exemple ceux des ordinateurs, comme ceux des gros appareils ménagers, vous ne les achetez qu'une fois tous les 2-3 ans. Et donc, on remarque moins leur baisse. Donc, c'est un phénomène classique. Cette fois-ci, les deux courbes, celle de l'inflation perçue et de l'inflation réalisée, sont bien sûr écartées. On a une surestimation, mais beaucoup moins que dans les années précédentes. Dans les années 2000, la perception de l'inflation était au moins 3 à 4 points au-dessus de la réalité telle que mesurée par les statisticiens. Et si je devais voir ça de façon positive, d'abord, je dirais qu'il y aura demain une conférence animée par Patrick Artus sur à quoi servent les banques centrales sans inflation. Il pense qu'il y a quand même de l'inflation. Donc les banques centrales, de ce point de vue-là, peuvent encore servir. Mais pour le prendre positivement, le pire, c'est si les Français avaient eu, dans leur très grande majorité, la perception que les prix allaient baisser. Ça, c'est la déflation. Ça crée des spirales. Ça fait que vous vous dites, je ne vais pas acheter aujourd'hui parce que je vais attendre demain que le prix ait baissé. Et ça, ça crée une récession. Et je dois dire que de ce point de vue-là, le résultat, même s'il est surestimé, me rassure un petit peu.
Bah merci. Nous avons déjà pris un quart d'heure de retard. Jean-Paul Chappelle est derrière le rideau et me fait signe en disant « Comment ça se fait que tu me prends déjà un quart d'heure ?» Donc je passe la parole à Jean-Paul Chappelle et à sa conférence et on va leur laisser la place. Je vous remercie beaucoup en tout cas.